L'idée, c'est de prendre le contre-pied de la semaine officielle de la mobilité. La semaine de la mobilité, c'est un truc organisé au niveau européen qui fait suite à la journée sans voiture, qui existait dans les années 90, un truc comme ça, et donc qui a été renommée semaine de la mobilité. Donc on comprend un peu l'enjeu, l'enjeu c'est d'être mobile, quoi, quel que soit le moyen de transport. C'est aujourd'hui une valeur vraiment universelle, et que certains voudraient universelle et imposée à tous. Et voilà, l'idée c'est de critiquer un peu ce devoir de mobilité. Quand certains réclament le droit à la mobilité, nous on a l'impression que par endroit on a un devoir de mobilité. Bon, il faut voir aussi que cette semaine de l'immobilité, elle fait un peu suite à un événement qui s'est passé l'année dernière, qui s'appelait les festivités contre les RFID, le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'à Lille, il y a un projet de puçage des voyageurs et des administrés. C'est-à-dire qu'il y aura une carte qui sera munie d'une puce RFID qui détectera chaque usager à l'entrée des métros, tramways, bus, mais aussi piscines municipales, bibliothèques, etc. Enfin voilà, ce sera une sorte de carte universelle qui pourra s'installer dans les téléphones portables. Et donc, à partir de là, on s'est posé la question de pourquoi autant d'attention aux voyageurs. Notamment ceux du métro, des bus, etc., des transports en commun. Parce qu'on voit qu'il y a une hausse de la fréquentation policière, il y a eu pas mal d'opérations conjointes entre la police et les contrôleurs dans le métro. Il y a la vidéosurveillance qui est apparue en 2002 et qui continue à s'intensifier. Il y a 2 ans, il y a eu des caméras installées dans les rames. Et donc ce projet maintenant de puce RFID, tout ça, ça pose quand même question sur l'enjeu de ces transports en commun, quoi. Et donc, du coup, la semaine de l'immobilité, qui est à Lille pas mal portée par Transpol, nous, on veut la critiquer, même si aujourd'hui, il y a pas mal de discours un peu écolo, mais je dirais assez superficiel, de promotion des transports en commun, comme quoi ça permettrait de reporter des voyageurs qui ne prendraient plus leur voiture et qui iraient en transport en commun, ce qui n'est pas forcément vrai. Du coup, on voudrait critiquer aussi les transports en commun, quoi.
Qu'est-ce qui est critiquable selon vous dans l'organisation des transports en commun telle qu'elle est pensée, bon, à Lille et de manière générale en Occident, quoi?
Bah, déjà, on peut faire le constat qu'aujourd'hui, toutes les villes de France, qu'elles soient de droite, de gauche ou de je ne sais pas trop où, développent et ont un discours assez ambitieux sur les transports en commun, quoi. Il y a énormément de tramways qui reviennent, de métros qui reviennent. Il y a peut-être des choses bien, des choses pas bien, mais déjà, ça pose question. Pourquoi un tel engouement pour les transports en commun? Et ensuite, on se rend compte que je ne sais pas si on peut parler de lobbying, mais il y a quand même une grosse attaque de multinationales privées pour s'accaparer les transports en commun. Donc ces deux multinationales en France, c'est Veolia, Veolia Transport et Keolis. Et elles se partagent, ces deux entreprises, 80% des transports en commun urbains, quoi. Et donc déjà ça pose question, quoi. Pourquoi est-ce que des multinationales de transport s'intéressent autant à nos déplacements? Est-ce que réellement, du coup, il y a une réelle utilité sociale à développer ces transports en commun? Par exemple, à Lille, Eric Quiquet, l'élu au transport, dit qu'en d'ici 2015, il veut doubler le nombre de voyageurs. Mais il dit pas pourquoi. Et ça serait forcément bien qu'il y ait 2 fois plus de voyageurs dans le métro et dans les bus d'ici 2015. Mais pourquoi, on ne sait pas. Alors du coup, en grattant un peu, on se rend compte que le principal intérêt des transports en commun, c'est d'expédier les humains pour aller travailler et pour consommer, quoi. Donc voilà, le seul intérêt de développer des transports en commun, c'est d'huiler un peu une mécanique sociale que nous, on refuse un peu, quoi. Enfin, on ne veut pas être uniquement ou des vaches à lait qui sont là uniquement pour consommer, ou alors des uniques travailleurs. Enfin, on ne veut pas être réduit à cette identité-là, quoi.
L'un des arguments pour lesquels les mairies, les institutions les collectivités essaient de développer des transports en commun, c'est aussi l'enjeu d'aménagement d'une part, mais de l'enjeu environnemental, non?
Disons que... Bon, déjà, il y a une part d'hypocrisie, parce que je ne sais pas quelle est la consommation électrique du métro lillois, qui est entièrement automatique, mais a priori, il fonctionne à l'énergie nucléaire. Donc dire que c'est un transport écologique, d'autant plus quand ce discours-là vient de la bouche d'un ver dont on sait que l'origine du mouvement est pas mal fondée sur la lutte anti-nucléaire, bon, ça pose pas mal de questions, quoi. Et ensuite... Moi, j'ai l'impression que d'opposer des moyens de transport entre eux, c'est-à-dire d'opposer par exemple le métro à la voiture, du coup, ça empêche de penser les besoins nos réels besoins, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut être mobile, etc. Où est-ce qu'on veut aller? Quelle ville on veut aussi? Du coup, ça empêche de poser comment on construit la ville. Qui décide de comment on construit la ville, etc. Et moi, j'ai pas envie d'opposer comme ça frontalement les bons transports en commun aux voitures qui polluent, quoi. J'ai plutôt envie de poser la question un peu plus radicale de pourquoi est-ce qu'il faut être mobile qu'est-ce qu'on veut faire de la ville, quoi.
On parle toujours de la semaine de l'immobilité du 16 au 24 septembre à Lille. Théodore nous fait le détail du programme.
Pendant cette semaine, on a organisé pas mal d'événements, des discussions, des projections de films, qui seront notamment à l'Univers ce jeudi. Il y aura une discussion sur la fraude aussi et la gratuité des transports en commun. Qui est organisé avec la Mutuelle des Fraudeurs à Lille ainsi que le Réseau pour l'abolition des transports payants de Paris qui vont monter et nous expliquer pourquoi il nous faudrait des transports en commun gratuits. Il y aura une manif à vélo aussi organisée samedi, des projections de films samedi soir qui seront organisées en plein air. Donc là c'est pareil, c'est des projections de films, enfin, on n'a rien demandé à personne, on va prendre une place à Moulins. Dans Lille et projeter des films sur la vitesse. Il y aura notamment un film qui s'appelle Le Grand Embouteillage, une comédie italienne qui se passe sur une autoroute pendant un embouteillage, quoi. Il y aura aussi une errance urbaine, on appelle ça comme ça, c'est une sorte de balade à pied, je sais pas, une balade sociologique, historique, culturelle, où on va essayer de débusquer l'aménagement sécuritaire, comme on dit, et puis refaire un peu l'histoire de l'aménagement de la ville, quand est-ce qu'il est arrivé à Lille, quand est-ce qu'arrive le TGV, à quoi ça sert le TGV, toutes ces choses-là.
Alors justement, un mot là-dessus, sur cette balade, c'est quoi les aménagements sécuritaires? Comment ça se passe cette visite en fait?
On se donne juste rendez-vous à Lille Europe, place François Mitterrand, et on va commencer par montrer l'aménagement de ce truc. L'aménagement sécuritaire, c'est quoi? C'est par exemple, c'est des choses très simples comme par exemple supprimer les bancs des places publiques, pour éviter que les gens squattent, quoi, tout simplement. Donc là encore, il y a toute une réflexion sur la fluidité piétonne par les aménageurs, qui a été pensée à la base à partir de l'aménagement des stades de foot, quoi. C'est-à-dire que autour d'un stade de foot, il faut faire rentrer ou sortir un maximum de gens le plus vite possible, sans qu'il y ait d'attente et sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de gens qui se rencontrent, enfin, genre les supporters d'équipe adverse, etc. Et ça a permis aux aménageurs de penser la fluidité des piétons, quoi. Donc par exemple, il y a de moins en moins de bancs publics, de plus en plus les places sont froides, quoi, granitiques, etc. On n'a pas vraiment envie d'y rester. Elles sont pas faites pour être, elles sont juste faites pour être traversées, quoi. Enfin, et c'est pareil, par exemple, si on prend la rue de Béthune, quoi, il y a pas de banc, il y a rien. Enfin, si on veut s'arrêter, c'est en terrasse d'un café, c'est tout, quoi. Et on est juste là pour passer, consommer et repartir, quoi. Et donc voilà, il y a toute une réflexion sur la fluidité, comme quoi ça sécurise. D'autres aménagements sécuritaires, c'est, je sais pas moi, par exemple la suppression des petits bosquets ou des choses comme ça où on pourrait se cacher. On le voit par exemple en face de la mairie de Oisem, quoi. Par exemple, elle était réaménagée, maintenant l'espace est complètement ouvert et il y a plus d'endroits pour être tranquille, pour se cacher, quoi. Donc l'aménagement sécuritaire, ça peut être ça. Dans le métro, par exemple, il n'y a plus de bancs, il n'y a plus que des sièges uniques, quoi. Donc ça rend impossible aux SDF de dormir ici. Enfin, c'est plein de choses comme ça, quoi.
Suite du programme de la semaine de l'immobilité, Théo nous parle en particulier d'une rencontre qui a lieu au CCL, le Centre Culturel Libertaire à Lille, mercredi 22 à partir de 19h.
On va recevoir les auteurs d'un bouquin qui s'appelle Fortune de mer. Donc c'est des gens qui habitent Boulogne-sur-Mer et qui du coup s'intéressent beaucoup au flux de marchandises par au flux maritime. Et donc voilà, à Boulogne-sur-Mer, il est prévu de faire de ce port un terminal de bateaux à grande vitesse. C'est donc des bateaux assez technologisés qui permettent non seulement d'aller vite et de transporter énormément de conteneurs. Et donc ils expliquent au début du bouquin comment le progrès technique de la marine marchande a permis l'extension du capitalisme, etc. Enfin, comment... tout ça et le progrès technique est relié au capitalisme. Et donc ils critiquent ensuite ça, le projet en tant que tel et les voies bleues, comme disent les transporteurs maritimes, quoi. Il y a des voies, par exemple, de transport qui, avec la fonte du pôle Nord, il y a des nouvelles voies maritimes qui s'ouvrent, etc. Et pareil, tout autour de ça, il y a tout un discours écologiste, enfin pseudo-écolo, quoi, qui dirait que c'est moins dispendieux en énergie de transporter des conteneurs de je sais pas où, de Chine à l'Europe par bateau. Enfin, de fait, c'est vrai, mais du coup, ça empêche de poser la question de pourquoi est-ce qu'il faut massifier les flux, notamment de marchandises. Enfin, voilà, donc eux, ils vont poser ces questions-là. Ensuite, c'est une copine qui s'appelle Aude qui va parler de la démocratie par rapport à la vitesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à la vitesse. Il y a pas mal d'aménagements qui sont faits pour les cadres, notamment les TGV, les aéroports. Et il y a pas mal de projets, notamment dans le Pays Basque, en Italie. Et puis il y a le projet d'aéroport aussi à Notre-Dame-des-Landes, à Nantes. Et elle va essayer de montrer les inégalités d'accès au transport et comment certains macro-systèmes techniques sont faits pour une certaine population et pas pour d'autres, quoi. Et ensuite, on aura Guillaume Carnino, qui a écrit La tyrannie technologique et qui participe aux éditions L'Échappée à Montreuil. Lui, il va nous parler de cette société de l'immédiateté et de vitesse, donc à partir de la massification des flux de transport, mais aussi des nouvelles technologies de l'information, qui nous obligent constamment à être connectés tout le temps, partout, etc. Et il va nous dire en quoi ça change nos rapports au monde. Voilà, de devoir être connecté constamment, quoi.
Amené à faire, c'est à réfléchir sur le progrès technologique, qu'est-ce que ça apporte. Bon, l'idée dominante, c'est que le progrès technologique apporte plus de liberté. Pour vous, c'est pas forcément vrai. Et est-ce que ça, c'est en lien aussi, enfin, c'est en lien avec les idées de la décroissance?
Ouais, pas forcément. Enfin, en tout cas, dans les mouvements de la décroissance, il y a une certaine réflexion sur, critique de la technique et du progrès, etc. Après, moi, je ne me reconnais pas trop dans la décroissance. Enfin, rien que le mot, il veut dire moins de tout. Que moi, j'ai envie de dire, il y a peut-être des choses dont on peut se passer, clairement, quoi. La décroissance, c'est un truc un peu de curé. Enfin, ils ont pas mal de mots à la bouche, comme sobriété, comme rationnement aussi. Là, dernièrement, il y a eu un grand dossier sur le rationnement carbone dans la revue Silence. Et voilà, il y a des trucs comme ça, ils s'en remettent beaucoup à l'État pour planifier une société écologique et pour planifier la décroissance. Ils sont très étatistes, quoi, les décroissants, et du coup, moi, je me reconnais pas trop chez eux, quoi. Enfin, il y a des choses dont je veux plus me passer. Et puis surtout, dans le mot décroissance, il n'est pas fait mention de révolution sociale, quoi, de qui produit quoi, comment, etc. Enfin, si comment, oui, mais qui produit quoi, à qui appartiennent les moyens de production et quels moyens de production on veut. C'est assez pauvre à ce niveau-là, en général, dans les propos de la décroissance, quoi.
Et sur l'idée dominante du progrès comme important plus de liberté?
Disons qu'à mon avis, il faut garder toujours un œil critique sur ces discours-là. Il ne s'agit pas de refuser toute technique. Enfin, ça, c'est pas possible. Enfin, ça serait débile. Enfin, on va pas. Enfin, je suis pas un Amish, quoi. Je peux pas décider de vivre comme au 19e ou quoi. Mais par contre, pour moi, c'est important de conserver constamment un œil critique sur ce qu'on nous dit d'une seule voix comme étant émancipateur, quoi. Enfin, je pense que historiquement, les mouvements et bourgeois et ouvriers se sont pas mal fourvoyés à penser que le progrès technique allait apporter l'émancipation collective, ou alors qu'au pire, il fallait se réapproprier les moyens de production, comme l'industrie, etc. Moi, je crois que non, en elle-même, l'organisation industrielle de nos vies, de la production, etc., elle est aliénante, quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie d'autogérer l'industrie, j'ai envie d'en finir avec cette forme de centralisation du travail, de rationalisation à outrance, etc., d'automatisation. Enfin, dans une usine, on est autant aliéné par la machine que par le patron, et j'ai envie de me séparer de ces deux choses-là, quoi. Et du coup, ouais, à mon avis, c'est important aujourd'hui, et c'est peut-être que ça apparaît un petit peu en ce moment avec toutes les critiques qui ont été faites sur les OGM, le nucléaire, ou pas trop, mais il y a eu un petit regain d'intérêt pour ces critiques de la technique autour des OGM, des nanotechnologies. Et puis peut-être aussi des technologies de l'information, mais bon, ça c'est un peu moins, je dirais. Pour moi, c'est important d'être critique là-dessus, quoi. La technique, elle apparaît pas comme ça n'importe où, quoi. Faut voir qui la finance. En général, c'est l'État, c'est l'armée, c'est les multinationales, c'est eux qui les développent. Enfin, a priori, ils ont pas les mêmes intérêts que moi à développer ce genre de trucs, quoi. Enfin, on est exproprié, à mon avis, de la recherche scientifique, on est exproprié des savoirs. Pour moi, il faut vraiment critiquer le rôle des experts scientifiques dans le fonctionnement du système capitaliste, industriel, etc. Enfin, tout ce qu'on veut, quoi.
Dernier mot, c'est sur la soirée de clôture. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Bon, la soirée de clôture, ça va être juste on va faire la fête, quoi. Enfin, on appelle ça boom boom, slow wave et speed mental, mais en gros, c'est tout, on va faire la fête, ça va être une boom à la con, il n'y a pas de DJ, chacun ramène ce qu'il veut, et puis on va manger, et puis on va regarder quelques petits films au début, un petit film d'animation qui sont assez rigolos, et voilà, c'est tout, c'est histoire de finir en faisant la fête, quoi. C'est le 24 au CCL, et la veille, le 23, il y aura une soirée slam dans le métro, voilà, métro Saint-Philibert à 19h.